Bienvenue dans ce nouveau podcast Les fleuristes ont la parole de Claire Tons. Aujourd'hui, je suis en plein centre-ville de Montpellier avec Sophie, qui a une histoire absolument invraisemblable à nous raconter. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Dis-moi, raconte-moi un petit peu le cadre où on est, ça fait pas longtemps du tout que tu es installée.
La boutique qui s'appelle donc Suzanne aux yeux bleus a ouvert ses portes le 3 octobre 2019. Et oui, c'est effectivement un petit fourre-tout mignon mais un peu bordélique. Mais visiblement, c'est ça qui plaît aussi à ma clientèle. J'ai souvent le retour. On adore chez vous, ça fait vraiment vivant.
Ouais, effectivement, je confirme, c'est vivant. Il y a partout des plantes, des fleurs, du séché. Enfin, tu as vraiment de tout. Et on se régale à regarder et à poser les yeux absolument dans chaque coin. Il y a quelque chose qui se passe, c'est chouette. Tu as par exemple là, suspendu au plafond des chaussures en bois.
Oui.
Où est-ce que tu as trouvé ça?
Et ben ça, c'est une cliente qui un jour est rentrée dans la boutique en disant bah voilà, j'ai remarqué que vous aviez plein d'objets, de bibelots. Nous, on déménage, on avait une maison, on rentre en appartement et on a plein de trucs à donner. Est-ce que vous voulez venir jeter un œil et prendre ce qui vous intéresse? Du coup, je suis allée un lundi où je travaillais pas chez cette dame et j'ai récupéré tout plein de bibelots, de trucs et notamment cette espèce de paire de chaussures en bois que j'ai trouvé sympa d'installer au plafond.
C'est adorable. Tu as une histoire un petit peu particulière parce que tu as démarré en octobre 2019. Le confinement arrive pas très loin derrière ça. Et là, tu as une histoire extraordinaire en fait parce que dans ce centre-ville où tu es, il y a énormément de concurrence. Il y a je sais pas combien de fleuristes, mais il y en a vraiment beaucoup. Et quand tu t'installes, et ben c'est un petit peu un pari. Tu as quasiment pas de followers, tu m'as expliqué. Tu n'es pas connue et pourtant il va se passer quelque chose d'extrêmement singulier. Tu nous racontes ?
Oui, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'on est 4 ou 5 fleuristes à 300 mètres l'un de l'autre et que c'est toujours intimidant de s'installer comme ça au milieu de tout le monde. Mais c'est vrai que la boutique a la particularité de se vouloir éco-responsable et du coup de travailler un maximum avec des producteurs locaux et notamment un producteur qui est à 15 minutes d'ici, qui fait de magnifiques pivoines et qui, au moment où le confinement est tombé, a partagé une vidéo sur son Facebook en expliquant que toute sa production de pivoines arrivait dans les semaines et que tous les fleuristes étant fermés, il allait devoir tout jeter à la poubelle.
Et là, effondrement.
Effondrement. Et moi, je me suis dit, mais quel enfer, on ne peut pas du tout laisser ça arriver. Donc, j'ai contacté ce producteur en lui proposant d'essayer de proposer à mes clients de la livraison. Il m'a dit, tu peux essayer, mais je suis pas sûre que ça marche, quoi. C'est vrai que moi, étant donné que j'avais une centaine d'abonnés sur mes réseaux sociaux, j'y croyais pas trop non plus, mais je me suis dit, tout ce qui est pris n'est plus à prendre et ce sera pas jeté. Du coup, j'ai proposé sur une petite story Instagram aux gens en leur demandant est-ce que ça vous intéresserait de la livraison de pivoine de Mogio pendant le confinement pour tâter la température. Et j'ai eu quelques petits retours tout de suite. Ah oui, pourquoi pas, bonne idée, voilà. Et j'ai également eu une infirmière de réanimation qui m'a contactée pour savoir si j'avais pas des fleurs à offrir. Étant fermée depuis 2 semaines, j'avais plus rien en stock. Et étant ouverte depuis quelques mois, je pouvais pas me permettre d'offrir des fleurs.
Oui, forcément.
Du coup, j'ai imaginé d'offrir la livraison des pivoines aux clients qui en commanderaient et de baisser le prix d'un euro par rapport à ce qui aurait été vendu en magasin. Et j'ai proposé à ces personnes-là, étant donné que c'est 1 euro moins cher et que la livraison est offerte, si vous le souhaitez, vous pouvez me faire 1 euro de don. Et chaque fois que je reçois 1 euro, j'offre une pivoine au personnel soignant.
Et là, explosion.
Explosion, ça n'a pas été direct, mais c'est vrai que tout de suite après avoir proposé ça, j'ai eu quelques petites commandes, une dizaine de demandes par jour, en expliquant que les livraisons commenceraient au moment où les pivoines seraient prêtes, sous à peu près 10 jours. Et le temps de ces 10 jours-là, le truc a vraiment fait boule de neige et j'ai démarré quand même avec pas mal de commandes. Et une fois que les gens ont reçu leur première commande, ils en ont parlé et le truc a explosé. Et je pense que j'ai livré, je sais plus, peut-être 10 000 pivoines. Et par contre, on a eu quasiment 2 000 euros de dons pour le personnel soignant. Donc les pivoines sont arrivées grâce à tous ces clients généreux en service de réanimation, d'urgence des hôpitaux à Montpellier.
D'accord. Et du coup, toi, ta page Facebook et Instagram, elles ont explosé aussi en nombre d'abonnés ?
Il y a quand même eu, beaucoup plus d'abonnés. La publication, elle avait été repartagée pas loin de 500 fois, je crois. Je sais plus trop, mais voilà. Et d'ailleurs, effectivement, c'est ce que je racontais tout à l'heure. au milieu de ces partages, ben, y a des gens qui tombent dessus, qui voient ça à l'autre bout de la France. Et j'ai été contactée par la matinale de France 2 qui était tombée sur la publication et qui a fait un sujet sur la boutique dans le cadre d'une chronique solidarité confinement. Après, ben, j'ai eu aussi des retombées dans la presse locale, de France 3. Enfin, c'était vraiment un truc complètement incroyable, pas du tout maîtrisé. Et du coup, une super expérience, une super aventure. Et ben, un moment assez dur aussi parce que assumer toutes ces demandes toute seule pendant une période de 34 jours sans jour de repos, c'était vraiment fatigant, mais franchement j'en garde un super bon souvenir et ça a été vraiment hyper chouette d'aller chez les gens pendant en plus ce premier confinement qui était quand même assez inédit et les gens étaient contents. Enfin, quand j'arrivais pour livrer, je recevais des pots de confiture, des gâteaux, des bouteilles de vin. Enfin, les gens étaient super contents. Et puis, vu qu'ils suivaient aussi mes stories où j'expliquais qu'il fallait être patient, que c'était un peu dur pour moi d'assumer tout toute seule, les gens avaient vraiment de la compassion et ils tenaient à me remercier de venir dans tout l'Hérault comme ça pour ramener les pivoines. Et franchement, il y a eu vraiment une solidarité avec moi et avec justement les soignants en offrant plein de pivoines.
Parce que donc, du coup, ce que tu m'expliquais, si j'ai bien compris, c'est que tu t'es levé à 7h30 tous les matins et couché à 2h,
ouais.
C'est ça ?
Pendant 34 jours, ouais, bah parce qu'en fait, le matin, quand je me levais, je lisais les emails de commandes, je répondais beaucoup parce que c'est vrai que les gens ne reprenaient pas forcément les informations. J'avais expliqué que le tarif était dégressif pour 5 pivoines, 10 pivoines, que les gens pouvaient choisir le nombre de leur choix, qu'ils pouvaient choisir la couleur de leur choix quand il y a eu justement plus de couleurs, parce que en fait, la saison des pivoines avance sur un mois et quelques et il y a différentes variétés, différentes couleurs. Et donc du coup, tous les jours, quand je me levais, je regardais les commandes sur Instagram, sur Facebook, sur ma boîte mail aussi. Et je regroupais tout sur un papier un peu à l'ancienne avec des gribouillis, avec le nom des gens, l'adresse et les petits mots aussi. Alors ça, les gens... Souvent, ils ont voulu envoyer des fleurs à des amis, à de la famille pour les anniversaires, juste pour une marque d'attention. Et donc, il fallait renoter tout ce que tout le monde voulait écrire. Donc ça aussi, c'était un boulot monstre. Et du coup, bah, le matin, donc, voilà, je lisais et je compilais. En fin de matinée, j'allais à Mogio chez le producteur qui, lui, pendant ce temps-là, avait coupé sa production du jour. Et puis, je ressortais mon papier, je regardais le nombre de pivoines pour Madame Machin, la couleur, le truc, et j'emballais tous mes bouquets. Je mettais le nom sur les étiquettes des bouquets et après je partais en début milieu d'après-midi avec ma tournée de pivoine et je faisais toutes les adresses et j'ai fait tout le tour de l'Hérault comme ça. Et quand je rentrais chez moi, il était en général 21h, 22h. Et là, je regardais les mails qui étaient tombés pendant que j'étais occupée toute la journée à faire mes bouquets et à faire mes livraisons. Et donc, jusqu'à 2h du matin, je répondais aux gens. Et j'allais me coucher. Et à 7h le lendemain, je recommençais la journée. Je regardais les réponses. Je refaisais ma liste de tournées de la journée. Et comme ça, pendant 34 jours.
C'est ce qu'on appelle un vrai démarrage en trombe.
Ah, ça, c'est sûr.
Et du coup, qu'est-ce que ça t'a amené au terme de répercussions ? Parce que tu n'étais pas du tout connu en ouvrant et là grâce à ça finalement tu as réussi à avoir une clientèle.
Et oui, ce qui est fou c'est que vraiment il y a eu une adhésion totale des gens à ce, c'est pas un projet mais à cette aventure on va dire, et la qualité des pivoines de Julien étant en plus au rendez-vous, ben ça a vraiment plu et les gens se sont dit ben c'est une bonne adresse parce que il y a eu un service rendu, il y a eu la qualité des produits et donc du coup il y en a beaucoup qui ont gardé l'adresse et effectivement j'ai je pense fidélisé une clientèle que j'avais commencé à avoir avant le confinement et même j'ai touché des clients que j'avais pas du tout avant grâce à cette aventure. Et le plus fou c'est que ça n'a jamais été le but de cette opération. Le but de l'opération c'était vraiment de limiter la casse pour le producteur quoi, vraiment. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse cette boule de neige et à me retrouver complètement dépassée.
Aujourd'hui, tu continues à travailler avec ce producteur, donc tu continues dans cette démarche éco-responsable ?
Oui. Bah, en fait, Julien et Antoine, ils produisent des fleurs toute l'année. Bon, après, il y a plus ou moins de variétés en fonction des saisons, évidemment. Là, en ce moment, c'est la période creuse, mais il y aura leurs tulipes dans un mois. Et puis, après les tulipes, il y a effectivement les pivoines. Et après, en été, il y a des lys, des tournesols, des lysianthus. Et en fait, je travaille avec eux toute l'année en fonction... de ce qu'eux ont à proposer et je le complète par ailleurs avec une autre productrice qui est aussi dans le coin et qui fait d'autres fleurs, surtout aussi en été, et puis beaucoup avec le Var. qui me livre en direct à la boutique. Voilà.
Alors c'est vrai que là, dans ta boutique, tu n'as pas énormément de choix. Est-ce que tu as quand même du produit qui vient de Hollande ou qui est de l'importation, enfin de l'exportation plutôt ?
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choix parce que j'essaye un maximum justement de travailler avec le Var, le local et de saison. Ça peut arriver qu'il y ait de la Hollande si vraiment j'ai pas assez de choix sur du produit local ou si j'ai vraiment de la demande particulière pour ce qui est mariage ou événementiel. Mais vraiment, j'essaye de limiter un maximum.
D'accord. Par exemple, pour le deuil, c'est vrai qu'on est toujours en train de se demander, pour les fleuristes qui n'ont pas du tout l'habitude de son fonctionnement, parce qu'en France, il y a plein de fleuristes qui n'ont pas de producteurs comme ça à disposition près de chez eux. Donc par exemple, comment ça se passe pour les deuils ? Les gens vont facilement s'adapter aux fleurs que tu as en magasin, parce que du coup, ils ne vont pas pouvoir choisir une gerbe toute jaune ou toute rouge. Ou, enfin, ça va peut-être limiter un petit peu le choix pour les clients, non ?
Bah après, je pense que pour le deuil, mais comme pour tout, les gens qui viennent à la boutique connaissent, enfin, ou alors ils viennent par hasard une première fois, soit ils tournent les talons tout de suite en disant « Ah ben, il n'y a pas ce que je cherche » et ça s'arrête là. Et je les renvoie sur des fleuristes justement qui ne sont pas très loin et qui vont avoir d'autres choix. Soit c'est justement des gens qui viennent ici parce qu'ils aiment cette démarche et qui veulent de la fleur locale. Et dans ce cas-là, on trouve ensemble, on trouve toujours en fait. On arrive toujours à proposer quelque chose qui va rentrer dans les goûts des gens, dans les convictions des gens et dans le budget des gens. Donc, voilà, je pense que les gens qui poussent la porte ici et qui achètent ici, c'est parce que justement, ils acceptent cette démarche-là et qu'ils jouent le jeu de c'est de la fleur locale de saison et il y a peut-être moins de choix, mais au moins, ça reste écolo, quoi.
Et tu vois, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher où est ton papier d'emballage.
Il est sous le comptoir. En fait, j'ai des grandes ramettes de craft que je coupe en deux et ils sont cachés dans le comptoir. Et justement, en fait, j'emballe mes bouquets là-bas, donc je les sors de sous le comptoir et je les pose sur le comptoir au moment d'emballer.
D'accord, donc toi, c'est que du craft ?
Alors, c'est principalement du craft et je demande toujours est-ce que c'est pour offrir. Et lorsque c'est pour offrir, je propose en plus le petit papier de soie Clairtons pour embellir un peu le truc. Après, c'est vrai qu'il y a des gens, pareil, qui atterrissent ici par hasard et qui demandent « Ah, vous n'avez pas un plastique ou du bolduc ?» Et donc, j'explique aux gens « Bah non, désolé, ici, c'est éco-responsable, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de... » Voilà. Pareil pour les bulles d'eau. Donc après, c'est une éducation des gens, oui et non, parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait au fait de ça et qui sont tout à fait d'accord avec ça. Il y a des gens qui découvrent et quand on leur en parle, ils disent « Ah bah oui, ça tombe sous le sens, très bien, ça me va ». Il y a des gens qui, eux, préfèrent quand même avoir du plastique, du bolduc. Et ben pareil, je renvoie chez d'autres fleuristes.
C'est vrai que dans ta boutique, on sent tout de suite cette ambiance éco-responsable parce que quand on rentre, on voit que tous les meubles, par exemple, c'est du meuble chiné. T'as des petites étagères pour poser là sur ta vitrine. Bon, t'as vraiment une toute petite vitrine, toi, étant donné que le magasin est petit, rappelons-le, c'est juste 27 mètres carrés de mémoire, tu m'as dit.
Oui.
Et on voit qu'il y a plein d'objets chinés. Enfin, c'est vraiment une ambiance extrêmement particulière, très cosy. On sent tout de suite, effectivement, en rentrant, qu'il y a un état d'esprit, quoi.
Après, les petits objets, ça, c'est ma grand-mère, elle avait une tonnes de petits vases, de petits bibelots en étain, en cuivre et tout. Et en fait, tout ça, j'ai tenu à récupérer. De toute façon, personne n'en avait l'usage. Donc, tout le monde m'a dit, prends-les pour la boutique. Et c'est vrai que c'est disposé un peu partout dans la boutique. Et c'est des choses que je prête pour les mariages, justement. Ça plaît beaucoup à certains mariés qui cherchent justement cette ambiance-là. Et donc, je mets à disposition gratuitement tous ces petits bibelots pour décorer les mariages, quoi.
Tu nous as pas dit depuis combien de temps tu es fleuriste, toi ?
Eh ben, ça fait 2 ans.
2 ans, d'accord. Tu faisais quoi avant ?
Avant ça, j'étais juriste en droit des affaires.
Ah la vache, le changement,
à Paris, ouais.
Le grand saut.
Ouais, c'est ça. C'est qu'après 9 ans dans le juridique à Paris, j'ai voulu vraiment faire autre chose. Et je me suis inscrite à une formation de fleuriste en parallèle de mon boulot. Et pendant 2 ans, j'ai fait ma formation en cumulant donc mon boulot de juriste, ma formation le midi sur ma pause déj, le soir, le week-end, les stages chez des fleuristes le week-end. Et une fois que mon projet était abouti, j'ai quitté mon emploi. Alors, ils étaient tout à fait au courant depuis le départ du projet et du terme de mon projet. Et donc, du coup, je suis partie avec leurs encouragements. Et je suis revenue à Montpellier où j'avais fait mes études et où était ma famille. Et voilà, et j'ai fini le 30 septembre mon boulot et j'ai ouvert le 3 octobre la boutique.
Et alors, si je puis dire, le verdict au bout de 2 ans, c'est quoi ?
C'est que je ne changerai rien. C'est que vraiment, c'est une aventure incroyable. Parce que d'autant plus, en fait, quand on se lance comme ça, tout seul, alors qu'on n'a jamais fait ça, ben, on flippe, on se dit qu'on peut complètement se planter, qu'il y a de la concurrence, voilà, que c'est quand même une grosse prise de risque. Mais justement, de voir que 2 ans après, la boutique, elle tourne bien, qu'il y a une vraie clientèle, que la boutique, elle est passée sur France 2, sur France 3, elle est même passée au JT de TF1 avec Jean-Pierre Pernod. Enfin, c'est un truc où on se dit, mais c'est complètement, complètement fou, quoi.
C'est improbable.
C'est improbable, c'est vraiment ça. C'est complètement improbable. Et du coup, enfin, vraiment, j'ai aucun regret de ma vie d'avant, même si j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait et que ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables à Paris, etc. J'ai aucun regret de ça, mais j'ai aucun regret d'avoir eu le courage de tout plaquer pour faire autre chose.
D'accord. Et alors, une question forcément que nos confrères et nos consoeurs vont se poser, c'est est-ce que tu arrives à en vivre aujourd'hui au bout de 2 ans ?
Oui.
C'est génial.
Oui, ouais, franchement. Ouais, après, j'ai la chance, justement, je pense, d'avoir eu ma formation juridique qui m'a quand même aidé pour créer la société, parce que la boutique, c'est derrière une société. J'ai vraiment tout étudié. Je ne me suis pas lancée dans le vide du jour au lendemain. J'ai vraiment travaillé mon projet pendant 2 ans. Et j'avais un papa qui était formidable et qui m'a vraiment beaucoup aidé dans mon projet. Et... le truc était vraiment super bien bouclé et ça a tenu la route et ça tient vraiment bien la route.
C'est extrêmement fort ce que tu viens de dire là, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans notre métier qui sont issues de reconversion professionnelle. Près de 70% des fleuristes sont dans ton cas en réalité, et ça on le sait rarement. Et toi, ce que tu nous dis, c'est que ce projet, tu l'as travaillé 2 ans à l'avance, tu as travaillé jour et nuit pour ça, tout en étant juriste, tu as préparé ce projet. Et du coup, ton père, tu honores superbement sa mémoire. Puisqu'il t'a vraiment aidé à cadrer ce projet, mais alors de fond en comble. Et tu me dis que tu as très peu de charges, que tu arrives aujourd'hui à en vivre même mieux que ce que tu étais quand tu étais à Paris.
Ben, effectivement, c'est vrai que j'ai la chance donc d'avoir été super bien préparée dans ce projet avec mon père qui lui avait eu une grosse carrière en entreprise et qui du coup connaissait tous les tenants, les aboutissements des charges d'entreprise, etc., que moi je touchais à peine du doigt en tant que juriste. Et c'est vrai que grâce à ça, j'ai une qualité de vie qui est bien meilleure qu'à Paris. Je vais pas dire que je gagne plus, mais au final, la vie étant moins chère ici, ouais, je m'y retrouve bien mieux parce que je gagne correctement ma vie pour une qualité de vie plus que correcte et des charges bien moins élevées qu'en étant à Paris.
Et puis surtout, c'est vraiment un projet qui te tenait extrêmement à cœur, puisque ayant fait des études de droit, quand tu annonces à tes parents que tu veux devenir fleuriste, c'est la levée de bras, forcément.
Ah, ça, c'est sûr que ça a pas été l'acceptation immédiate du projet, ça c'est sûr. Mais effectivement, quand ils ont vu que le projet était réfléchi, que c'était pas du tout un coup de tête, que c'était quelque chose que vraiment j'envisageais sérieusement et que je mettais tout en œuvre pour ça, ils sont montés à bord du projet. Quoi. Et c'est vraiment cool parce que effectivement grâce à ça, mes parents étant sur place, je faisais des sélections de locaux à visiter sur internet. Mon père allait voir et il me disait alors ça vaut pas le coup, ça faut que tu viennes voir. Donc il préparait le terrain, je venais voir, et quand on a trouvé le local, c'est mes parents qui ont mis le papier peint, qui ont fait la peinture, etc. Et c'est pour ça, moi, quand je suis arrivée le 30 septembre avec mon déménagement depuis Paris, il n'y avait plus qu'à aller chercher les meubles qu'on avait chinés qui étaient dans leur garage et d'aller les poser dans la boutique pour ouvrir 3 jours après. Quoi. C'est vraiment, ça a été une aventure familiale. Mes parents, même mon frère, il a fait la plomberie, il a fait l'électricité avec mon père. Enfin, vraiment, c'est fou parce que j'ai embarqué tout le monde dans ce projet et c'était une grande aventure qui continue. Bon, sans mon papa, mais on continue quand même, quoi.
Alors, je trouve que ton histoire, elle va, je suis persuadée qu'elle va parler à beaucoup des fleuristes qui nous écoutent, parce qu'en réalité, on a toujours tendance à dire qu'il faut laisser les soucis à la porte de la boutique quand on rentre, etc. Sauf qu'en réalité, ce travail nous prend tellement au trip que c'est vraiment toute notre vie qu'on y met, toute notre passion, on y met notre énergie. On se lève tôt le matin, on se couche tard le soir. Ça a une empreinte qui est vraiment forte, beaucoup plus que simplement s'arrêter au pas de la porte.
Ah, ça c'est complètement vrai. C'est vrai que avant, effectivement, j'avais une vie qui était professionnelle et personnelle, où vraiment j'arrivais le matin, j'enfilais mon costume toute la journée, et après quand je rentrais à la maison, sauf exception, petite urgence ou quoi, enfin, j'étais quand même assez libre, et puis dans ma tête, j'avais pas vraiment de stress par rapport à mon travail de juriste. Enfin, dans une moindre mesure, évidemment. Mais là, c'est sûr que ben, maintenant, je me dis que j'ai plus une vie pro, une vie perso. J'ai une vie de fleuriste dans laquelle tous mes proches interagissent, comme je disais, ben, mes parents, mon frère, mon amoureux qui est quand même hyper présent et qui m'aide beaucoup, justement, quand j'ai des petits soucis de réapprovisionnement et qui travaille pas, il peut y aller, des livraisons aussi. Enfin, vraiment, il fait lui aussi partie de l'aventure. Et c'est vrai que ben, c'est des horaires, c'est du boulot, il faut se lever, il faut faire du flux tendu pour avoir toujours de la marchandise qui est de qualité, etc. Et après, enfin, chacun le fait comme il a envie, mais moi c'est vraiment comme ça que je le fais. Je travaille sans climatisation, sans frigo, et je travaille vraiment sur du flux tendu, ce qui demande énormément de temps. Mais je pense que du coup la clientèle le sait, et que c'est ça aussi qui plaît, c'est qu'ils savent qu'il y a un vrai investissement personnel derrière, et la plupart du temps de la qualité.
Tout ce que tu nous as raconté, ça représente vraiment la vie de plein de fleuristes en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est à la fois préoccupé par la proximité, c'est-à-dire les gens avec qui on travaille, que ce soit la famille qui s'implique, que ce soit les clients autour de nous qui sont solidaires, mais également les producteurs avec lesquels on est solidaires. Et est-ce que tu as envie de te donner un dernier petit mot ? J'ai envie de te laisser la parole pour conclure en fait, cet entretien. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux fleuristes qui, comme toi, ont envie de se lancer dans cette démarche engagée ?
Moi, je pense qu'il faut vraiment pas se laisser intimider par le projet au global. Il faut y aller pas après pas. Enfin, franchement, c'est pas insurmontable de se lancer comme ça. Et effectivement, il n'y a pas que les fleurs de Hollande. Il n'y a pas que les fleurs qui viennent de l'autre bout du monde. Il y a aussi, dans toute la France, hein, je le vois, il y a énormément de production locale, de plus en plus d'ailleurs. C'est un métier qui est très dur pour les producteurs aussi. C'est pour ça que c'est bien de les soutenir. Et franchement, les clients sont au rendez-vous. Alors, pas tous, mais ça permet aussi justement de se démarquer les uns des autres. C'est que chacun a son empreinte personnelle, chacun a ses fleurs, chacun a son style dans son magasin, et que vraiment, oui, on peut pas plaire à tout le monde en fait, que ce soit avec des fleurs de Hollande ou avec des fleurs locales. En fait, la clientèle, elle ira là où elle se sent bien, là où elle aime le style, là où il y a la qualité. Enfin, c'est vraiment c'est propre à chacun, et vraiment il faut soutenir la production locale. C'est important pour eux, c'est important pour la planète. Et vraiment, il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par cette démarche et qui sont prêts à faire les concessions sur le choix des fleurs.
Merci Sophie.
Pas de rien, merci.
À très bientôt, et je te souhaite une excellente continuation avec ta boutique.
Merci beaucoup.